Jazz Radio à Lyon sur 97.3. Allez, en route pour le restaurant L'Institution. On va y retrouver Gérard Angèle et son invité pour les coulisses du Grand Lyon. Bonjour Gérard.
Bonjour Richard. Guy Mathiolon, bonjour. Vous êtes le patron du groupe Serfim et vous venez de faire paraître une plaquette sur les atouts des ETI. Les ETI sont les entreprises de taille intermédiaire. D'abord, en dehors de savoir que c'est une entreprise de quoi, de taille intermédiaire, c'est quoi les ETI?
Alors, il y a une définition... bonjour Gérard, d'abord.
Bonjour.
Il y a une définition qui a été donnée d'ailleurs par l'Assemblée nationale sur les entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 250 salariés.
Et il y a cas alors donc?
Oui, absolument, puisque nous, on sera bientôt 2000 salariés et on fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, il y a un plafond maximum qui est de 5 000 salariés et de 5 milliards de chiffre d'affaires.
D'accord. Et en dehors, quand on passe ce cap-là?
En général, on est coté au CAC 40 et on fait partie de l'économie financière.
Alors, en quoi ça diffère d'avoir une ETI plutôt qu'une petite entreprise ou une grande entreprise au CAC 40? Est-ce que l'objectif, c'est pas le même de se développer, d'avoir des salariés de préférence heureux, de s'intéresser au sort des actionnaires pour qu'ils soient comblés et d'avoir des clients satisfaits?
Alors déjà, la première différence, c'est au niveau des actionnaires, puisque en général, dans une ETI, les actionnaires travaillent dans l'entreprise. Ce qui est une chose extrêmement différente des grands groupes qui, eux, appartiennent à la bourse, aux fonds de pension, etc.
Au grand capital, diraient certains.
Absolument, comme dirait mon ami André Girin, au grand capital. Et si vous voulez, et en fait, la différence essentielle, c'est que les ETI sont les entreprises aujourd'hui qui créent de l'emploi, qui sont très ancrées sur leur territoire, qui sont leaders en matière d'innovation et qui sont en général très présentes à l'international. Et en fait, le problème essentiel de l'économie française, c'est justement le fait que le nombre d'ETI soit beaucoup plus faible que dans les grands pays industriels. C'est vrai aussi, on est beaucoup moins qu'en Allemagne, ce qu'on appelle le Mittelstand, beaucoup moins qu'en Italie, même beaucoup moins qu'en Espagne ou en Grande-Bretagne. Et en fait, ça, c'est des raisons qui sont liées à la fiscalité et à la transmission des entreprises. Alors, c'est l'objet de mon fascicule.
C'est l'objet de votre fascicule. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du nouveau président de la République, d'Emmanuel Macron, qui semble quand même avoir un œil très intéressé sur le monde de l'économie? Absolument. Et sur les entreprises? Vous l'avez rencontré, je crois?
Il cite souvent, oui, tout à fait, il cite souvent les entreprises de taille intermédiaire. Et j'ai surtout rencontré ses membres de son cabinet lorsqu'il était ministre de l'économie. Et il a une vraie proximité avec... un organisme dans lequel je milite, qui s'appelle le METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, sur lequel on travaille notamment sur l'amélioration de la transmission. Parce que pour qu'il y ait plus d'ETI en France, il faut déjà garder celles qui existent. Et pour garder celles qui existent, il faut travailler sur la transmission du capital. Et en fait, heureusement que nous avons en France le pacte Dutreil. D'ailleurs, Renaud Dutreil a rejoint le président Macron il y a quelques mois. Et dans les actions que je mène avec le Métis, c'est de voir comment on peut encore améliorer le pacte Dutreil pour éviter que les entrepreneurs soient obligés de vendre leur entreprise à l'étranger pour payer la fiscalité.
Alors aujourd'hui, finalement, vous êtes comme les syndicats ouvriers. Vous voulez toujours plus d'aides, toujours plus de réduction fiscale, de niche fiscale. Vous demandez, en France, on attend toujours de l'État.
C'est justement l'inverse. Moi, j'ai dit à plusieurs représentants, y compris à l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qu'en fait, les entreprises n'avaient pas besoin d'aide. Elles avaient besoin qu'on aménage le territoire pour qu'elles puissent et qu'il y ait une réglementation qui leur permette de se développer. Et donc, moi, j'ai milité pour qu'on supprime la plupart des aides, hormis les aides à l'innovation et les aides à l'international. Parce que l'international, c'est pour compenser des disparités qui existent avec d'autres pays. Et moi, ce que je propose plutôt, c'est ce que j'ai appelé l'échelle mobile des fonds propres.
C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ce bidule?
C'est un bidule qui a beaucoup plu à M. Montebourg, d'ailleurs, quand j'en ai parlé.
Mais vous pensez que tout le monde comprend ce que c'est que l'échelle mobile?
Je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, l'échelle mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, à l'origine, quand j'ai écrit ce fascicule, c'était avec mon ami Christophe Gruy, lorsque nous étions respectivement...
Un autre patron lyonnais qui dirige le groupe Maya.
Absolument, et qui était le trésorier de la Chambre de commerce quand j'en étais président. Et on s'est rendu compte que les entreprises qui avaient survécu à la crise de 2008, c'est celles qui avaient des réserves, des fonds propres. C'est un lieu commun, mais il suffisait d'y penser. Et qu'en fait, pour qu'une PME devienne une ETI, au lieu de lui prendre son argent quand elle fait des profits, il vaut mieux qu'elle le laisse dans l'entreprise tant qu'elle ne distribue pas de dividendes aux actionnaires. Donc je ne demande rien à l'État. Je demande simplement à ce que les ETI, les PME puissent se constituer des fonds propres. Et mon échelle mobile, ça consiste à dire que tant qu'une entreprise n'a pas 10% de son chiffre d'affaires en réserve, elle ne doit pas payer d'impôt sur les sociétés. Je ne milite pas pour moi parce que fort heureusement, je les ai depuis longtemps.
Alors donc, au moins vous êtes désintéressé. Petite question d'actualité, la clause Molière. Vous êtes un peu dans le BTP. Est-ce que vous êtes pour la clause Molière? Je rappelle que la clause Molière, c'est obliger les gens qui travaillent dans les chantiers de parler français.
Alors, moi, je suis pour parce qu'on milite beaucoup pour la prévention des accidents du travail et je ne vois pas comment on peut avoir une politique déterminée dans ce domaine si les gens ne comprennent pas la langue dans le pays dans lequel ils travaillent. Ensuite, la clause Molière, ça pose un autre problème. Un problème, d'ailleurs, que Emmanuel Macron en met en avant, qui est l'Europe. En fait,
ça n'est pas compatible avec les règles européennes.
Oui, et c'est une hérésie parce que pourquoi on parle de la clause Molière? Parce qu'on parle beaucoup des travailleurs détachés. Et en fait, si on veut redonner un peu de la vigueur à l'Europe, il faudrait commencer par aller vers une convergence fiscale et sociale pour qu'il y ait un SMIC européen, de telle manière que moi, je ne suis pas contre la concurrence, mais je veux juste qu'elle soit loyale. Et si j'ai en face de moi des concurrentes pour lesquelles le SMIC est à 300 euros par mois, j'aurai du mal à être compétitif.
On vous aura entendu, Guy Mathiolon. Juste une dernière question, vous en avez parlé il y a 2 minutes, vous avez été président de la Chambre de commerce de Lyon. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette institution? Ça sert à quelque chose, la CCI? Sauf à offrir une voiture et un chauffeur au président dont vous avez profité, comme aujourd'hui on profite votre successeur.
Tout à fait. Alors, je pense que là aussi, les chambres de commerce ont besoin d'être profondément réformées. C'est un outil qui est prodigieux, mais malheureusement qui a été victime d'une absence de réforme. Et si vous voulez, les présidents de chambres de commerce, et j'en ai été témoin, ont été très maladroits dans le refus de se réformer. Je pense notamment à la réforme territoriale des chambres de commerce qui a mal abouti et qui devrait être reprise de fond en comble. Mais je ne désespère pas d'avoir la possibilité d'en parler aux proches du président Macron.
Eh bien, on vous laisse le rejoindre. Je ne sais pas s'il vous attend pour l'instant. Guy Mathiolon, je vous remercie.
C'était les coulisses du Grand Lyon sur Jazz Radio avec Gérard Angel. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur lyonmag.com, partenaire des coulisses du Grand Lyon.